La culture n'existe plus en France depuis mars dernier, elle n'est pas donc essentielle, les cinémas et les théâtres sont fermés, les musiciens et les acteurs ne peuvent plus jouer. Alors différentes salles de spectacle en France se sont occupées, et c'est le cas du Carré Magique. Alors après avoir laissé la parole la semaine dernière à son directeur, Philippe Le Gall place cette semaine aux acteurs, à ceux qui occupent les lieux. L'un d'eux a accepté de nous parler de la situation, c'est Morvan Léon. Bonjour Morvan.
Bonjour à vous, merci de nous accueillir.
Alors, on va revenir un petit peu sur le début. À quel moment vous avez décidé d'occuper le Carré Magique et pourquoi cette salle en particulier?
En fait, ça a été sur l'exemple du théâtre de l'Odéon à Paris. Ouais. On voyait depuis une dizaine de jours qu'il y avait une action là-bas, que ça commençait à s'étendre. Des syndicalistes et des non-syndiqués ont décidé quelques jours avant l'occupation, en fait, d'occuper un lieu dans le secteur.
D'accord. Et alors, comment ça s'est passé? Quelle a été la réaction du directeur du Carré Magique?
Alors, on est arrivé le lundi matin à 9h, le 15 à 9h. Mmh. On s'est rendu vers les bureaux de l'administration du Carré Magique. Le directeur nous a accueillis très favorablement. Ça s'est passé très courtoisement, en fait. Et on lui a dit qu'on venait occuper le Carré Magique. Et on s'est organisé avec lui. On voulait savoir que les équipes du Carré Magique puissent continuer à travailler. Parce que, bon, il travaille, il y a une administration, il y a des techniciens... sur place, donc on cohabite paisiblement depuis maintenant, on est au 11e jour.
11e jour. Alors le domaine de la culture est un des secteurs les plus touchés avec cette crise sanitaire. Est-ce que aujourd'hui vous avez des aides de l'État comme les restaurateurs ou d'autres métiers?
En fait, les intermittents du spectacle sont des salariés, ils touchent le chômage en fonction du temps de travail qu'ils ont effectué l'année d'avant, ça d'une année sur l'autre. Donc l'année dernière, en pleine crise, étant donné que les intermittents ne pouvaient pas faire leur cachet, le gouvernement avait décidé d'organiser une année blanche, ouais, qui se termine au 31 août.
D'accord.
Or là, le travail est impossible, donc faire ses heures dans ce délai imparti devient quasiment impossible. On ne sait même pas, et là il n'y a pas de date de reprise fixée, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc faire ces 507 heures entre maintenant, où on ne peut rien faire, et la fin août, ça paraît une mission impossible pour énormément d'intermittents, même si quelques-uns ont travaillé l'été dernier et cet hiver.
Alors aujourd'hui, quelle est votre principale revendication?
Alors la motivation est au-delà des intermittents, ce n'est pas du tout un mouvement corporatiste. On est vraiment sur la précarité. Mmh. En fait, beaucoup de gens travaillent un peu comme les intermittents du spectacle, de manière intermittente, c'est-à-dire qu'ils ont des CDD à répétition, et chaque CDD reconduit ou s'accumule pour donner des droits au chômage. Or, pour beaucoup de précaires, depuis mars donc 2020, il est beaucoup plus difficile d'obtenir des contrats, que ce soit pour les artistes ou les gens même dans la presse, dans plein de secteurs. En fait. Ouais. Les saisonniers, la restauration, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en CDI, qui vont avoir du mal à cumuler leurs heures. Donc ça peut représenter, ça ne va pas forcément être d'un coup, mais dans les 6 mois, 1 an à venir, une extension des demandes de RSA, mais phénoménale.
En fait,
et une paupérisation d'une grande part de la population, parce que beaucoup de gens travaillent de manière précaire. Il n'y a vraiment pas que les intermittents du spectacle, et c'est là-dessus qu'on se bat. Donc au niveau national, il y a une demande de retrait de la réforme du chômage. Les allocations vont baisser de 20 à 30% pour 800 000 personnes à partir de juillet.
D'accord.
Et sachant que déjà 50% des gens inscrits à Pôle emploi ne touchent rien. Les allocations ne sont pas si énormes que ça. Une baisse de 20 à 30%, ça peut faire passer sous le seuil de pauvreté, tout simplement. Il faut bien le dire, pour des gens qui ont des petits salaires, ça représente, je crois, le seuil de pauvreté est dans les 900 euros ou quelque chose comme ça. Il y a des gens qui toucheront moins.
Ouais. Et alors donc, du coup, aujourd'hui, vous demandez le retrait de la réforme de l'assurance chômage et la prolongation de l'année blanche.
Oui. Oui, principalement, ce sont les principales revendications. Après, viennent se greffer, on est solidaires, parfaitement solidaires, des demandes de retrait des lois qui sont jugées par une partie de la population liberticide, la loi sécurité globale et la loi dite sur les séparatismes, même si elle s'appelle pas comme ça, qui représente par exemple pour le spectacle la présence d'agents armés dans les salles. Voilà, et une privation de liberté pour les citoyens en général. Voilà, mais la revendication sociale, elle est vraiment sur le retrait de la réforme chômage et l'extension, la prolongation jusqu'à ce qu'on puisse travailler de l'année blanche pour les intermittents du spectacle. Oui.
Alors, vous avez reçu de nombreux soutiens d'artistes. Certains sont venus jouer aussi. C'est important de faire vivre le lieu du Carré Magique en ce moment.
Oui, alors c'est vrai que les occupants ne sont pas forcément des gens qui jouent régulièrement. C'est vrai que le Carré Magique, c'est une salle où ce sont des artistes qui sont dans des qui ont des structures de production derrière, qui sont ce sont des tournées nationales. Le Carré Magique en même temps présente un espace qui nous permet de l'occuper et justement de cohabiter avec par rapport à des théâtres plus petits, de cohabiter avec les équipes techniques du théâtre et tout ça. On reçoit sur le parvis, il y a une espèce d'agora spectacle tous les midis de midi à 14h. Les gens peuvent venir s'exprimer, écouter un peu de musique selon le temps qu'on a, hein, parce que on n'est pas en train de faire de l'animation, on est vraiment dans l'occupation et ça prend du temps, il y a beaucoup de tâches et beaucoup de, donc on essaye d'animer effectivement et les gens prennent un vrai bol d'air et un bol d'humanité, on va dire, en venant parler à leurs voisins. Alors on n'est pas agglutiné, il n'y a pas de risque sanitaire, on va matérialiser les espaces pour qu'il n'y ait pas des attroupements de plus de 6 personnes, mais on va le matérialiser, ça aujourd'hui c'est en train de se faire parce que les règles se durcissent aussi de jour en jour. On veut pouvoir continuer à faire que ce soit un lieu de rencontre. Les gens viennent déjeuner. Dès qu'il se passe quelque chose au Carré Magique, les gens s'installent, viennent déjeuner. C'est vraiment un moment, tout le monde nous dit, ça fait du bien de pouvoir parler à d'autres gens, en fait, tout simplement. C'est un lieu de vie aussi.
Ouais.
On a parlé de Maison du Peuple, mais c'est aussi un lieu de vie presque normal, on va dire. Voilà, comme avant mars 2020.
Mais c'est ça. On a l'impression que c'est loin quand même, mars 2020 aujourd'hui.
Et puis la vie normale. Et puis, nous, on était, depuis le deuxième confinement, on était coincés chez nous. Alors on travaille l'instrument, on a tous des activités, on se cultive, c'est l'occasion de lire des gros livres et tout ça. Mais là, c'est vrai que d'une part, on peut exercer nos talents et nos compétences, les partager avec d'autres. Et en plus, c'est vrai qu'on s'est rendu compte dès le premier jour que ça fait énormément de bien de pouvoir discuter avec d'autres gens, tout simplement, et de rencontrer, d'échanger, de partager et de sourire, et même si on est masqué donc que les sourires ils se voient pas trop, mais ça fait du bien. Enfin, le retour qu'on a, c'est que tout le monde prend un bol d'air frais. C'est comme si on vit en ville longtemps et puis qu'on se retrouve à aller au bord devant la mer et on se dit waouh, c'est bon d'avoir de l'horizon, quoi, en fait.
On
manque d'horizon dans toute cette histoire, hein, quand même. Et que les chômeurs comme les salariés, on manque tous d'horizon et de pouvoir se projeter dans l'avenir et dans un avenir à moyen terme. On pense aussi aux lycéens, aux étudiants qui doivent construire leur vie et qui ne peuvent pas. En ce moment, c'est difficile de se projeter dans l'avenir, c'est tout.
C'est très compliqué, ouais. Est-ce que les personnes qui viennent, je sais pas, vous amènent de la nourriture
On a énormément de gestes de solidarité. On a même eu tellement de nourriture qu'on partage avec des associations d'entraide. Je n'ai pas le nom en tête, mais il y a une association qui est très active, qui fournit de la nourriture aux gens en difficulté. Le plan B, par exemple. On est en contact aussi avec. On n'est pas très loin. On n'est pas très loin de la banque alimentaire. Ouais. Donc dès qu'on a des surplus, en fait, on les partage parce qu'on n'est pas là pour se faire nourrir par la population non plus. C'est pas le but, mais on apprécie évidemment les gens qui viennent avec un petit sac de nourriture, des maraîchers, des boulangers. Il y a des gens qui nous amènent tous les jours. On a des dons, et c'est vrai que les gens veulent manifester leur soutien. Et ça se fait spontanément. On demande rien, mais c'est très agréable. Oui, forcément, ça nous aide à tenir aussi, hein, forcément.
Alors, les politiques aussi sont venus à votre rencontre, notamment Joël Lejeune, le président de Lannion Trégor Communauté, Paul Le Bihan, le maire de Lannion, et Guiret Caron, en charge de la culture et maire de Tréguier. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit aujourd'hui? Qu'est-ce que vous leur demandez?
Alors, on a fait passer le message de nos revendications nationales sur lesquelles ils n'ont pas beaucoup de prise, le retrait de l'assurance chômage et l'année blanche, mais aussi on réfléchit avec eux et ils ont été, semble-t-il, très réceptifs. Après, on va voir concrètement ce que ça donnera, mais ils ont été très réceptif à une idée de comment c'est pas ce qui va pouvoir s'organiser quand l'activité va reprendre. Est-ce qu'on ne pourra pas forcément faire de grands spectacles? Donc on leur proposait aussi d'essayer de créer une sorte de circuit court sur les territoires, des circuits courts artistiques, c'est-à-dire dans des endroits où il n'y a pas forcément de concerts d'habitude, ouais. De faire des petites choses, des spectacles avec des petites jauges, avec des intervenants locaux, ce qui permet de réduire les coûts. Il n'y a pas le transport, il n'y a pas l'hôtel à payer, des choses comme ça. Donc on leur a proposé ça et on va travailler là-dessus avec eux. Ils ont l'air partants pour étudier la question. Et ils nous ont dit qu'ils avaient un budget culturel qu'ils étaient prêts à utiliser. Et aussi, s'il fallait faire des demandes, il y a un grand plan de relance je ne sais plus combien de milliards d'euros, éventuellement, essayer d'avoir un peu de retombées aussi de ce plan pour organiser le fait que les intermittents du secteur puissent travailler cet été et au-delà des interventions après éducatives et dans les écoles, ce qui permettrait de sauver un peu de l'emploi. Parce que là, on est comme sur un plan social. Il y a Nokia qui est en cours en ce moment avec 400 personnes qui sont touchées et tout le monde est très concerné dans la région et nous aussi. Mais là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, on n'a pas les chiffres exacts, mais c'est des centaines de familles qui sont impactées par cette histoire. C'est-à-dire que si tout le monde bascule au RSA d'ici la fin de l'année, c'est très pour compliqué. Les communes aussi, ça a des retombées d'avoir des nouveaux pauvres dans leur ville ou dans leur commune, c'est pas cool.
Donc,
c'est pas une bonne chose. Là.
Donc, ces rencontres avec les politiques ont été plutôt positives.
On a dit qu'on se reverrait. On a fait le point. Nous, on a vraiment bien expliqué. Il y avait quelques petits différends. La façon dont justement l'argent arrive jusqu'au territoire en partant de Paris, en passant par Rennes et Saint-Brieuc, et comment ça arrive jusqu'ici et comment ça n'arrive pas, surtout jusqu'ici des fois. Mais ça, on en a discuté et bon, on était plutôt d'accord. Et on doit se revoir, je pense, la semaine prochaine avec des propositions justement pour organiser des spectacles, comme je vous disais, qui ne seront pas trop impactés. Parce que l'été dernier, on a passé notre temps à être programmé et à se demander jusqu'à 2 heures avant le spectacle s'il allait pouvoir se faire, y compris dans les cafés-concerts et les choses comme ça.
Alors, vous faites beaucoup d'actions aussi. Ça en ressort aussi de ce qui se passe dans les AG. Qu'est-ce que vous avez comme action prévue prochainement?
Alors, il y avait une déambulation au marché ce matin de quelques intermittents. Alors, c'était des gens du spectacle de rue, c'est très très sympa. Ils étaient habillés en tente et en sac de couchage.
D'accord.
Voilà, pour un peu sensibiliser les personnes qui sont au marché. Demain matin, on a rejoint une action nationale qui s'appelle les Vendredis de la colère sur le retrait de la réforme du chômage. Donc, on ira demain matin à 10h à Pôle emploi. Rencontrer la directrice, il y a assez Trégor qui nous rejoint, ou on rejoint, enfin, voilà, ça se fait de concert, on va dire. Et ensuite, on ira faire une petite déambulation à 11h entre l'IUT et les locaux de l'LTC.
D'accord.
Sans aucune animosité, juste montrer qu'on est là et éventuellement, si on pouvait sensibiliser les étudiants, il y a des lycéens et des étudiants qui viennent nous voir, mais en sensibiliser encore plus. On a découvert en début de semaine qu'après 8 jours, il y avait plein de gens qui n'étaient pas encore au courant. Voilà.
Ah oui, d'accord.
On essaye de... Mais là, je crois que ça commence à finir. Et puis, je vous parle là maintenant, ça va sûrement avoir un impact formidable.
Ben, j'espère aussi. Alors, est-ce que... on va revenir sur la culture. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir une ministre encore crédible et audible, ou finalement, elle fait ce qu'elle peut?
Je pense que ça se passe à Bercy et dans les bureaux du Premier ministre et du Président. Le ministère de la Culture, je pense, n'est pas du tout leader sur cette histoire-là.
Ouais.
Pour le dire aussi, moi j'ai rien contre Roselyne Bachelot, mais bon, de toute façon, ça fait un certain temps que les décisions se prennent au niveau présidentiel et premier ministériel. Hein. Les ministres, en plus, d'autant plus quand il y a une crise, et puis le ministre des Finances et du Budget, bien sûr, mais ça se joue pas du tout au niveau du ministère de la Culture, je pense pas.
Hein. Alors j'ai vu également qu'il y a un théâtre qui a été évacué, c'était à Bordeaux. Ouais. Est-ce que vous craignez que ça puisse arriver à Lannion?
Non, on est à Lannion, hein, c'est bon enfant.
Ouais. Non, non, mais
en fait, non, il y a des endroits dans des grandes villes, dans des métropoles, où effectivement les occupants, parce qu'on n'est pas non plus si on n'est pas une foule, et ce qui est très bien d'ailleurs par rapport aux mesures sanitaires et tout ça, mais certains endroits se font déborder effectivement un peu par des gens. Alors je ne sais pas qui c'est, donc je ne nomme personne, mais se font déborder. On nous le dit, on a des nouvelles de collègues dans d'autres théâtres. Ouais. Mais non, nous, on est arrivé par rapport à des théâtres de plus grandes villes, on est arrivé en plus grand nombre. On a un noyau dur, je dirais, plus conséquent que dans certaines villes, de même certaines grandes villes. Mais c'est Lannionnais et Angers, en fait.
Oui, voilà.
On discute. Il y a les gilets jaunes qui sont avec nous, qui sont à côté de nous, en fait, et puis qui participent des fois. Ils sont pas très nombreux, hein. Ils participent aux AG, ils discutent avec nous, mais ils ne sont pas du tout envahissants. Personne n'essaye d'imposer des idées qui n'auraient rien à voir avec ce qu'on fait.
Ouais.
Non, ça se passe. Je ne veux pas nous porter malheur en le disant, mais ça se passe très paisiblement et on gère. Il y a effectivement, il y a des trucs avec des gens un peu, un peu avec des idées qui étaient annexes, on va dire, et puis par rapport à la pandémie et tout ça. Mais non, nous, on est vraiment sur la solidarité avec tous les secteurs, sur le social, et on s'y accroche. Et on est assez nombreux, je pense, pour ne pas se faire envahir. Les lieux sont très propres, on fait le ménage deux fois par jour, on tient la boutique, en fait.
Et vous comptez rester là, au final, combien de jours?
Bah,
tant qu'il faudra.
J'ai expliqué ça hier aux élus de LTC.
Ouais.
On s'inscrit dans le mouvement national. Donc on est solidaire du mouvement national, même si on obtient, et je pense qu'on va obtenir des choses au niveau local, et c'est très bien pour le travail des gens, mais l'occupation n'est pas liée à ça. On est vraiment là sur la précarité, sur la peur de l'extension de la misère, c'est vraiment ça, et c'est pas que pour nous, hein, parce qu'en plus on sera pas tous touchés, il y en a parmi nous qui vont s'en sortir très bien, mais c'est vraiment on parle pas d'épidémie de pauvreté, quoi, mais pourtant, elle risque de faire beaucoup plus de victimes que le Covid.
Que le Covid, ouais.
Je minimise pas du tout la crise sanitaire, mais la crise sociale et économique qui en découle risque d'être très très grave pour le pays, en fait, complètement, parce que la production de pauvres, même si plein de gens se sentent protégés de ça, mais devenir pauvre, c'est une menace pour le tissu social d'un pays.
Et puis on en parlait dernièrement avec Pierrick Leleuf, hein, du plan B, et notamment la santé mentale, hein, qui est très importante.
Oui. Il y a plein de. C'est aussi pour ça que c'est important un lieu de vie comme celui qu'on crée, qui est éphémère, qui n'a pas vocation à durer éternellement. Hein. Mais je pense que ça fait beaucoup de bien aussi. Oui, il y a une grande détresse morale. Il n'y a pas que les finances. Effectivement, on ne vit pas que d'argent, quoi. On vit des échanges et on vit du sourire, on vit de l'imagination. On se rend compte à quel point c'est précieux. Et on représente ça, j'espère. Et on essaye de développer ça au maximum.
Et on espère que tout ça va s'arrêter bientôt, mais ça devient de plus en plus compliqué, parce que on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est officiel désormais, les rassemblements de plus de 6 personnes sont interdits et seront verbalisés dans toute la France, et pas seulement dans les départements qui sont confinés.
Oui, c'est pour ça qu'on va matérialiser, là aujourd'hui, on va matérialiser des carrés, on va se mettre à 6 avec les distances de sécurité, et on va matérialiser au sol, sur le parvis, on va matérialiser au sol des carrés qui permettront aux gens de se regrouper par 6, pas plus de 6, et d'être dans les clous de la distance physique.
Eh ben, merci beaucoup, Morvan Léon, d'avoir été sur Millennium, et n'hésitez pas, hein, quand vous avez un message à faire passer.
Je vous remercie, bonne journée à vous.
Bonne journée, au revoir.
Au revoir.